c'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche, c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Ado Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Nos Adorés, tous les mardis à 13h30 sur Radio Judaïka. Aujourd'hui, on reçoit Joséphine Marcollet. Bonjour.
Bonjour.
Joséphine, je vais un peu parler de ton parcours en premier lieu, sachant que toi, tu es spécialisée en méditation et en remédiation, d'accord ?
C'est ça.
C'est bien ça, hein ?
Oui, tout à fait, oui.
On a hâte d'en savoir plus, on a hâte que tu nous décrives un petit peu toutes tes activités. Par contre, pour ce qui concerne ton parcours, il est assez conséquent aussi. On se disait hors antenne que je ne savais pas comment faire le tri parce que tout est intéressant. Donc toi, tu as d'abord fait apparemment un master en conduite de projet en sport, santé et insertion. Donc on était déjà un petit peu dans le sujet, je trouve.
Oui, alors à l'époque, je ne savais pas trop ce que j'allais en faire, mais effectivement, c'était les
prémices. Ça fait sens avec le recul, complètement. Donc ensuite, ça m'a vraiment passionnée. Tu étais formatrice d'insertion à l'école de la seconde chance ou de la deuxième chance, je ne sais jamais comment on dit, pendant 3 ans et demi. Et là, c'était un peu lourd apparemment à gérer pour toi, peut-être mentalement.
Oui, voilà, c'était une grosse charge mentale. Alors du fait du public assez compliqué, mais aussi de la charge de travail parce que en fait il aurait fallu être deux pour sur un poste et du coup c'était assez difficile de voir les parcours de ces jeunes, de faire le tri en rentrant à la maison et puis sur place de gérer les cours, l'administration, et tout ce qui allait autour. Donc c'était très riche humainement. Mmh. Mais ça m'a demandé vraiment beaucoup, beaucoup de ressources et d'énergie. Et c'est ce qui a fait finalement que je suis venue à la pleine conscience parce que, en fait, j'avais vraiment besoin de trouver des moyens d'aller bien moi pour pouvoir aider ces jeunes.
Oui, c'est ça, de se préserver et en même temps d'être capable de les aider aussi le lendemain matin.
C'est ça,
exactement.
Ouais,
c'est pas évident. Ouais. Donc c'est comme ça que tu dis que t'as commencé à pratiquer le yoga et la méditation. Et donc après, tu me dis que tu as passé 2 ans à Unicité. Qu'est-ce que c'est, Unicité ?
Alors Unicité, c'est une asso qui accompagne des jeunes qui font un service civique, donc des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans et qui dédient à peu près 9 mois de leur vie à des missions de solidarité. Donc en fait, l'asso va créer des missions de service civique, donc c'est des missions d'intérêt général sur le lien social, la culture, tout ce qui est intergénérationnel ou aide aux personnes en situation de handicap. Et du coup, j'accompagnais ces jeunes-là en collectif et en individuel.
Donc tu dis que c'est là-bas que tu as commencé à utiliser les outils que tu utilisais toi-même, méditation, etc.
Oui, c'est ça. Dans le cadre de l'accompagnement individuel des volontaires, on travaillait pas mal sur leur confiance en eux, l'estime de soi, et puis sur leur projet après le service civique. Et du coup, j'ai testé quelques petites choses.
In situ, quoi.
Voilà, c'est ça.
Donc après, tu dis que tu es partie 6 mois en voyage. C'était où, ce voyage ?
Alors, je suis partie en Amérique du Sud, surtout au Pérou et en Colombie.
Oui. D'accord. Et tu as pratiqué aussi là-bas ou ça n'avait rien à voir ?
Oui, en fait, l'idée, c'était ça. C'était avant de... Je savais en partant d'Unicité que je voulais me lancer à mon compte. Et avant ça, j'avais envie vraiment de prendre un temps pour moi pour approfondir ma pratique, partir en retraite. Et bon, j'aurais pu le faire en France, mais le fait est que j'avais aussi envie de voyager.
Mais évidemment.
Donc j'ai fait pas mal de communautés où j'ai eu l'occasion de beaucoup pratiquer le yoga et la méditation.
D'accord. Et entre-temps, donc, pour finir, tu t'es formée pour devenir instructeur en médiation en milieu scolaire. Pardon, tu nous expliques.
Méditation, oui.
Ah, mais... en méditation. Je sais pas pourquoi, moi je pense milieu scolaire, je pense médiation et pas méditation, et j'ai tort, puisque c'est ce que tu vas nous expliquer aujourd'hui. Très bien. Et oui, mais t'as encore fait plein de choses, du coup on va peut-être remonter un peu plus dans le temps avec notre première rubrique.
Et maintenant,
c'est l'heure de la rubrique.
Et vous, quel ado étiez-vous ?
Joséphine.
Alors, quelle ado j'étais? C'était marrant de me replonger là-dedans. Je dirais que j'étais une ado qui avait très peu confiance en elle, qui était très bonne élève et qui était plutôt, plutôt introvertie.
D'accord. Mmh. Mmh. C'est tout ce qu'elle nous dira. J'ai l'impression que ça y est, elle est arrivée au bout de sa réponse. Alors Joséphine, on va commencer tout de suite. On parle beaucoup des difficultés que connaissent les ados pour gérer leurs émotions. Donc on a parlé dans d'autres émissions des modifications hormonales, des gros bouleversements, etc. Est-ce que tu dirais que cette génération d'ados est hyper émotive?
J'ai pas l'impression qu'elle soit forcément plus émotive que les générations précédentes. Le fait est qu'au niveau physiologique, le cerveau de l'ado et tous les changements hormonaux font que c'est une période de la vie où les émotions sont exacerbées et où le cerveau n'a pas atteint la maturité complète pour pouvoir réguler justement ses émotions et prendre des décisions rationnelles sur le moment d'arrivée des émotions. Donc je ne sais pas si on peut dire que cette génération-là est forcément plus émotive que les précédentes. Je pense que c'est simplement l'âge qui fait que. Et peut-être qu'on le médiatise plus aussi aujourd'hui, je ne sais pas.
Oui, c'est possible. En entrée d'émission, là, pour le générique, on a choisi, enfin j'ai choisi, un extrait de L'Effronté de Claude Miller avec Charlotte Gainsbourg. Et c'est une scène où elle explose littéralement et tout le monde reste un peu comme ça, dubitatif. Elle part de la pièce et puis tout le monde se dit « bon, ben d'accord ». Comment on est censé réagir face aux émotions fortes comme ça de nos ados?
Alors, je dirais que la première étape, c'est d'abord de gérer sa propre émotion à soi en tant qu'adulte. Donc, je dirais, avant toute chose, prendre une bonne respiration, essayer de prendre du recul par rapport à ce qu'on ressent soi-même. Et l'émotion, c'est un phénomène très bref, qui dure quelques secondes, voire quelques minutes. Donc, je dirais que la réaction instantanée, de vouloir parler ou contrôler ou expliquer ou comprendre, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire parce que justement, surtout si c'est une réaction de colère de la part de l'ado, il faut attendre que ça retombe un instant avant d'essayer de parler, de comprendre, d'expliquer. Donc je dirais que la première chose, c'est prendre quelques secondes, voire quelques minutes, le temps que ça retombe. Et ensuite, ce qui fonctionne le mieux dans la régulation émotionnelle, on utilise une technique qui s'appelle le NACR, N-A-C-R. Et c'est donc nommer l'émotion, donc aider le jeune à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Et c'est valable pour les adultes aussi, évidemment. Bien sûr. Donc, comment tu te sens là? Est-ce que tu es frustré, irrité? Est-ce que tu es énervé, fâché? C'est du mépris? Qu'est-ce que tu ressens là? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, le A, c'est accepter, accueillir. C'est là. Donc, en fait, ça ne sert à rien de ne pas vouloir que ce soit là parce que c'est déjà là. Oui. Donc, toutes les émotions en soi sont légitimes et utiles. Ce qui n'est pas acceptable, c'est le comportement qui peut parfois en découler. Donc, finalement, dire aux jeunes, c'est OK. Tu as le droit de te sentir agacé, tu as le droit de te sentir frustré, tu as le droit de te sentir déçu. Le C, essayer de comprendre quel est le besoin qu'il y a derrière. Ok, donc là, tu te sens agacé parce que tu ne te sens pas respecté, parce que toi, ce que tu aurais souhaité, c'était ça. Mmh. Et alors, ça peut paraître un peu évident, mais vraiment, l'émotion, à partir du moment où elle est nommée et reconnue, il y a déjà...
Ça descend déjà
énormément. Donc, le fait d'essayer de comprendre, effectivement, quel est mon besoin là? Est-ce que j'ai besoin d'attention, d'écoute, de respect, que la situation change? Ça va aussi vraiment aider l'émotion à redescendre. Et puis le R, respirer. Parce que la respiration, ça active le système nerveux parasympathique qui correspond à la détente et à la régénération. Et... moi, je sais, quand j'étais jeune et qu'on me disait, quand j'étais stressée ou en colère, respire, ça ira mieux, ça avait tendance à m'agacer parce que je disais aux gens, je respire tout le temps, après, toute la journée.
Après, on apprend qu'il y a différentes manières de respirer et qu'on peut en faire un outil très fort.
Et que le simple fait de se connecter à la présence du souffle, ça va aider à apaiser. Mais c'est vrai que comprendre pourquoi et comment ça marche, ça peut aider à l'accepter, je vais respirer, ça va me faire du bien.
Ouais, j'ai le sentiment aussi que dans la petite enfance, on a moins de mal à accepter les émotions de nos enfants. qu'à l'adolescence, tout à coup, comme on a en face de nous un être humain de taille adulte, on a le sentiment qu'ils vont peut-être tout comprendre et savoir mieux réguler leurs émotions, alors qu'en fin de compte, c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'enseigne. Quand mes enfants étaient petits, on avait la roue des émotions. Et c'est vrai que je trouvais ça logique d'essayer de comprendre pourquoi tu es en colère et pourquoi maintenant tu me dis ça et pourquoi. Et finalement, une fois qu'on les a en version améliorée devant nous, on a plus de mal à revenir à ces réflexes-là qui sont finalement des réflexes assez sains. Merci pour cette méthode, elle est chouette.
Avec plaisir, et ça marche aussi bien pour les ados que pour les adultes.
Non, n'oublions pas,
utilisons-le nous aussi.
Oui, exactement. Et dans la sphère scolaire, donc une gestion difficile des émotions peut avoir des conséquences, j'imagine, sur, je pense à des comportements rebelles, des résultats scolaires en baisse. Quelles sont tes méthodes, outre cette méthode-là qui est déjà très chouette, on le rappelle, NACRE, donc j'imagine qu'on peut trouver peut-être des références sur Internet.
Oui, oui, bien sûr.
Donc quelles sont tes méthodes en milieu scolaire particulièrement pour aider l'ado à redresser la barre et à gérer mieux ses émotions?
En fait, ce qu'on apprend, donc moi j'interviens soit directement auprès des enseignants pour les former, eux, à ces techniques à utiliser avec leurs élèves, directement avec les élèves. En fait, ça dépend...
Des demandes des lycées ou des collèges.
Voilà, c'est ça. Et du coup, ce qu'on va utiliser en premier lieu, c'est vraiment apprendre à se connecter à son corps, à apprendre à placer son attention... Parce que ce soit justement pour améliorer les capacités d'attention et de concentration ou pour la régulation émotionnelle, le fait de passer par le corps, ça va vraiment aider à prendre du recul par rapport à ce qui est en train de nous traverser.
D'accord.
Si je suis dans mon corps, je ne suis plus dans ma tête en train de ressasser, de ruminer ou de faire un scénario catastrophe. Et du coup, ce qu'on apprend en premier lieu, c'est vraiment ça. Je choisis de placer le projecteur de mon attention sur ma respiration, sur les sensations corporelles, aussi bien la fraîcheur que le contact avec les vêtements, que les sensations de tension ou de légèreté dans le corps. Et après, à partir de là, on va développer tout un processus pour se rendre compte quand l'émotion est là, qu'il se passe quelque chose, parce que parfois on est tellement, surtout les ados, tellement emportés dans l'émotion qu'ils ne sont pas en mesure de se dire « Ah oui, tiens, là, je vais porter mon attention sur le corps. » Donc en fait, l'idée, c'est de s'entraîner dans les moments où tout va bien pour pouvoir, en cas de tempête émotionnelle, piocher dans les outils,
dans la boîte à outils,
la respiration,
que tu leur auras donné.
Se centrer sur le corps.
Ouais. Et apparemment, tu as des bons retours justement de pratique avec les adolescents. Tu arrives à attirer leur attention au départ, j'imagine, parce qu'ils doivent être peut-être un peu sceptiques quand tu débarques. Non, je ne sais pas.
Oui, alors c'est vrai qu'à l'école, surtout au collège, souvent, la première séance, ils se disent « Mais qu'est-ce qu'elle veut nous faire faire ?» Parce que je leur propose de fermer les yeux, je leur propose de venir ressentir justement ce qui se passe dans leur corps, d'écouter des sons.
Ouais.
Et donc, c'est très inhabituel pour eux. Donc au début, ils me prennent un peu pour une extraterrestre. Et puis, y a aussi le fait que c'est des ados. Donc spontanément, c'est plus cool d'avoir tendance à dire que c'est nul ou d'être un peu sceptique.
Ouais.
Donc clairement, ça n'a rien de magique. Hein. Il y en a qui n'adhèrent pas. Mais effectivement, les résultats sont quand même super encourageants. Et ça va vraiment dépendre des contextes, des classes. Parce que, par exemple, deux classes de troisième dans le même établissement, ça peut très bien fonctionner avec l'une et beaucoup moins bien avec l'autre en termes d'adhésion.
Oui, c'est vrai aussi dans l'enseignement en général. De toute façon, dès que c'est en milieu scolaire, selon même à âge égal, etc., on a l'impression de mettre les mêmes conditions en place. Il y a des groupes qui accrochent, d'autres qui accrochent moins. Et ça, c'est reconnu aussi par les enseignants. Je pense qu'ils vont se reconnaître dans ce que tu dis là.
Ouais, complètement.
Même si toi, tu es hors cadre et du coup, quelquefois, l'adhésion est peut-être plus facile puisque tu représentes moins l'autorité, etc., j'imagine.
Oui, effectivement. Alors après, les recherches scientifiques montrent que l'impact à long terme est quand même plus important si c'est l'enseignant
qui
met en place les pratiques.
D'accord.
Mais sur le long terme. Donc en fait, moi là justement, je suis en train de... Parce que je me suis inscrite à un DU de psychologie positive cette année. Et donc je vais écrire mon mémoire là-dessus, sur l'impact, les différents impacts entre une intervention uniquement auprès des enseignants, une intervention enseignant plus élève pour mettre en place la pratique. D'accord. Et pas d'intervention du tout pour du coup mesurer qu'est-ce qui a le plus d'impact. Mais bon, a priori,
l'hypothèse pour l'instant qui a été validée, c'était que c'était plus efficace quand c'était l'enseignant qui était à l'origine de la.
Voilà, mais sans qu'il y ait un accompagnement de la part de l'intervenant extérieur. Et moi, mon postulat, c'est que justement, pour que l'impact de l'enseignant soit maximisé, c'est bien qu'il y ait un accompagnement parce que c'est. L'idée, c'est d'incarner quand même la pratique et que l'enseignant qui n'a pas du tout pratiqué la pleine conscience ou la psychopositive, ça va être compliqué pour lui d'incarner ce qui prône correctement. Donc, il me semble que le fait de former l'enseignant pour que lui diffuse après, m'aide à l'accompagner. Ça me semble faire sens. C'est, voilà.
Ouais, évidemment. Donc, toi, tu prends également en séance individuelle.
Oui.
Et tu dis donc il te faut 7 séances maximum pour que l'ado commence à se sentir mieux. Moi j'aime bien donner des délais parce que je sais que les ados étant sceptiques plus ou moins par nature, ils ont besoin de savoir que évidemment s'ils pratiquent et s'ils font les exercices qu'on leur demande de faire en 7 séances, ils doivent commencer à en ressentir les bénéfices. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'un protocole et le détailler légèrement?
Oui, alors du coup, c'est un petit peu le même protocole qu'en collectif finalement. Donc l'idée, ça va être de prendre 2 séances pour s'habituer à porter son attention sur le corps et sur le souffle, développer des outils, utiliser des outils pour développer la concentration et l'attention.
D'accord.
Et puis ensuite, on va parler des émotions. Qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment, quels sont les déclencheurs, les corrélats physiologiques, etc. Et puis s'entraîner à les nommer et à les ressentir dans le corps pour être capable de les réguler. Et ensuite, les 2 dernières séances, donc là, on va chercher à développer la confiance en soi, l'estime de soi et l'altruisme avec des pratiques de psychologie positive autour de la gratitude notamment. Et donc, il n'y a rien d'obligatoire dans les 7 séances, mais disons que c'est un programme relativement complet. Après, si on souhaite plutôt développer l'attention et la concentration, ça peut prendre moins de séances avec moi, puisque l'idée, c'est que de toute façon, il y a des audios et des exercices à pratiquer en dehors des séances. Parce que c'est vraiment la régularité qui va faire qu'il y aura un impact. Et l'impact peut être présent au bout de 2 ou 3 semaines avec une pratique régulière, courte, mais très régulière des outils.
Et tu as une technique pour gagner l'adhésion de l'ado? On la veut, cette technique. On la veut tous.
Non, je ne crois pas qu'il y ait de technique particulière. Après, moi, c'est un public avec lequel je me sens bien, avec qui j'aime bosser. Donc voilà, je pense qu'ils le sentent. J'ai été animatrice... mes premiers jobs, en fait, quand j'avais 17 ans, c'était ça.
Ça a tout de suite collé, quoi. T'as senti que c'était un public qui te correspondait bien.
Ouais, voilà. Ouais. Et puis, je dirais que j'essaye vraiment de doser entre de l'humour, de mettre sens dans les choses aussi. Ouais. Parce que,
ils ont besoin de ça, en fait. Hein, ils ont complètement. Besoin que les choses aient du sens.
Mais, et les adultes aussi, finalement. Mais c'est assez exacerbé à l'adolescence. Donc, de comprendre pourquoi on fait les choses... Et d'essayer d'être à l'écoute aussi. Donc voilà, j'essaye de...
Et on implique les familles ou pas?
Oui, complètement. D'accord. Complètement. Ouais. L'idée,
par quel biais?
Alors, moi, après chaque séance, je fais un petit débrief, soit oral, en présentiel, soit par mail avec les parents, pour leur expliquer quels sont les outils qu'on a utilisés. Pour qu'eux puissent, plutôt que dire... à leur enfant, calme-toi ou d'être dans des injonctions.
Oui, c'est un investissement familial, j'imagine.
Qu'ils puissent se saisir des outils et pratiquer ensemble.
Oui, et peut-être découvrir aussi tout ça.
Pour eux-mêmes, complètement.
Oui, pour eux-mêmes, exactement. En tant que parent d'ado, parfois on se doit de lâcher prise. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en fait, on se sent investi dans leur éducation et en même temps, on n'arrête pas de nous dire « Non mais lâchez un peu, là, lâchez-le, lâchez prise. » En quoi la pratique comme ça peut aider à lâcher prise plus facilement? On parlait en entrée d'émission du fait que se mettre en colère face à un ado en colère, ce n'est pas une solution viable, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc lâcher prise, c'est un peu ça aussi, c'est savoir peut-être se mettre en retrait parfois. Moi, je sors. Hein.
Ouais.
Je sors de la pièce.
Et puis, choisir ses combats aussi, je dirais.
Exactement.
Et filtrer. Parce que, effectivement, tout ce qui sort de la bouche de l'ado n'est pas forcément bon à garder en mémoire et à.
Et de la nôtre aussi, des fois, malheureusement. Hein.
Complètement. Mmh. Et je dirais qu'après, c'est vraiment. L'exemplarité aussi, à savoir que ben, si on veut inculquer à son enfant la non-violence, par exemple, pour résoudre les conflits, ben, si nous-mêmes, on lui hurle dessus ou même qu'on le violente physiquement, on a beau lui dire comme un petit « on ne tape pas les autres enfants ben, », si on lui dit ça en le secouant, en fait, les mots, ils n'auront aucun impact. Mmh. Et je crois que du coup, en tant que parent, ce qui est important, bah, ça va être d'essayer au maximum d'appliquer sur soi ce qu'on souhaiterait voir chez son enfant.
Oui.
Et aussi d'accepter le fait que, bah, qu'on est humain, que les émotions, elles ont aussi un impact sur nous. Et pas hésiter à revenir après coup.
Exactement, ouais.
Pour dire, bah, écoute,
faire
je suis désolée.
Faire un petit bilan. Voilà, hier soir, c'était voilà. Vraiment une cata. Je suis désolée, je t'ai crevée.
Enfin... C'est pas comme ça que j'aurais voulu réagir. Voilà. Et je te demande de m'excuser. Mmh. Mais là, voilà, j'ai pas réussi sur le moment à réagir autrement. Et ça, je pense que c'est le meilleur exemple qu'on peut donner à son enfant. De dire que finalement, s'excuser, c'est pas un signe de faiblesse, mais vraiment d'intelligence et de force. Et que bah, on est tous humains, qu'on commet tous des erreurs et que c'est OK, en fait, si on est en mesure de les assumer.
Mmh, tout à fait. Donc, ce que je voulais aborder aussi avec toi, c'est le fait du lâcher-prise, on en parle. Mais comment faire quand un ado n'a pas d'émotion, ne montre pas d'émotion ? Mmh. Est-ce que tu as déjà eu ce cas de figure d'un ado voilà, égal à lui-même en permanence ? Oui. C'est un peu perturbant aussi, peut-être, pour les parents. Moi, je ne connais pas ça, hein, mais j'ai des parents qui m'en ont parlé, qui m'ont dit, bah, le mien, jamais un mot plus haut que l'autre, tout va bien.
Je pense que ce n'est pas forcément qu'il n'en a pas, mais en tout cas, c'est qu'il ne les montre pas ou qu'il n'est pas connecté à ces émotions-là. Et donc là, ça peut venir soit de traumatisme de l'enfance, soit alors d'une peur justement d'être en contact avec les émotions.
D'accord.
Parce que parce qu'ils supportent pas le fait de ressentir de la frustration ou de la tristesse ou autre. Et là, l'idée, ça va être encore une fois de proposer de porter l'attention sur ce qui se passe dans le corps et aussi sur les événements positifs. Donc, par exemple, le fait de revenir en contact avec un événement agréable,
oui.
Avec une victoire, une satisfaction, une grande joie. Essayer de visualiser ce moment et de voyager dans qu'est-ce que j'ai eu comme pensée à ce moment-là, qui était là, de revoir les visages des gens, etc. Là, on peut inviter aussi à venir voir ce qui se passe dans le corps. Et à essayer de mettre un mot sur l'émotion. Mmh. Et peut-être que simplement...
Construire un peu les émotions comme ça au fur et à mesure. Enfin, c'est-à-dire en mettant des mots, après il arrivera peut-être plus à verbaliser et à vivre finalement ses émotions plus
fortement.
Voilà,
et à les vraiment sentir dans le corps, oui.
Ouais, d'accord. Merci beaucoup Joséphine. On va terminer avec toi qui va nous expliquer comment est-ce qu'on peut te contacter. Donc c'est Joséphine Marcollet. Explique-nous un petit peu si on a envie de prendre contact avec toi, de faire un protocole ou quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors, vous pouvez déjà commencer par aller voir mon site internet, donc c'est joséphinemarcollet.com, sans grande surprise. Et donc, dessus, il y a mes coordonnées, donc un mail pour commencer, c'est très bien.
On mettra le site internet sous le podcast.
Ok, bah super. Mm-hmm. Et puis, mes coordonnées téléphoniques sont aussi sur le site, donc voilà. Et j'ai une page Facebook au même nom aussi, donc...
Tu es présente partout.
Voilà.
Merci beaucoup encore une fois, donc on te retrouvera dans une seconde émission où tu nous parleras en fait de petits exercices de relaxation qu'on va pouvoir faire et utiliser en cas de stress, d'angoisse, etc. Merci beaucoup, c'était un échange très intéressant.
Merci à toi,
et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.
C'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche, c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Ado Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30,